C'est ludique, 9h30, 10h.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est ludique au programme. Aujourd'hui, c'est une spéciale Kaori. On va retrouver notamment Jérémy Fleury, qui est l'illustrateur du jeu. Avec lui, bien sûr, on va parler de l'illustration de Kaori, mais aussi de ses autres illustrations, parce qu'il a fait quand même 28 jeux de société. C'est pas rien, et pas que ça, puisqu'il a fait un dessin animé qui passe en ce moment sur TF1. On en parle dans quelques minutes. C'est ludique, ça commence maintenant.
En famille ou avec des amis, c'est ludique, c'est l'heure de jouer.
L'Agathis australis, que l'on appelle Kaori, est un conifère qui se rencontre au nord de la Nouvelle-Zélande. Alors cette espèce, si elle n'est pas la plus haute, est en Nouvelle-Zélande celle qui forme les plus gros troncs comparables en diamètre à ceux des séquoias. Les Kaori vivent très longtemps, 2000 ans pour certains, et peuvent mesurer jusqu'à 50 mètres de haut. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'histoire de Teika à Maui, l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. Voici Kaori, un jeu de Charlec, l'auteur de La Bête dernièrement, édité par Débattre le jeu et distribué par Ludistri. Alors sur cette île, on va retrouver des oiseaux australiens, les kiwis. À vol d'oiseaux, hein, les deux îles ne sont pas très loin. Les Maoris sont les premiers humains à arriver sur l'île, juste avant les Anglais, qui ont colonisé l'île et ont coupé les arbres pour construire des habitations. En même temps, hein, y a les possums qui sont arrivés. Ce sont des rongeurs qui vont détruire l'habitat des kiwis. Bref, vous l'avez compris, tout le monde va avoir du mal à cohabiter et chacun va avoir une mission. Oui, Kaori est un jeu asymétrique. On va poser un plateau central représentant la grande carte de l'île nord de la Nouvelle-Zélande, divisée en territoires, et chaque joueur va choisir un rôle avec des objectifs différents. Il aura un plateau personnel. Alors les kiwis commencent partout et doivent tenter de rester dans un maximum de régions jusqu'à la fin de la partie. En fin de partie, je gagne un point pour chaque kiwi sur le plateau. Les possums, eux, commencent sur trois territoires seulement et doivent s'étendre au maximum. Les Anglais, doivent dans un premier temps couper un maximum d'arbres, puis vers la fin du jeu, sauver un maximum de kiwis en chassant les possums. Donc si vous jouez l'Anglais, vous gagnez des points pour les possums récupérés que vous avez chassés, mais aussi pour les Kaori récupérés, c'est-à-dire les arbres que vous avez coupés. Et enfin, les Maoris, eux, doivent pacifier l'île et vont interagir avec un petit peu tout le monde. Selon le nombre de joueurs, vous ne jouerez pas avec tous les rôles. La Maori, par exemple, ne sera jouer qu'à 4 joueurs. Alors dans Kaori, le jeu est divisé en 5 périodes et dans chaque période, on va jouer 4 tours. Mais alors comment on joue? Chaque joueur a 9 cartes et différents pions en rapport avec son personnage et notamment à des jetons héritage, on va y revenir. Vous allez voir que ces cartes sont divisées. Vous avez une partie pouvoir et une partie initiative. Lors d'un tour de jeu, vous choisissez 2 cartes, une pour son initiative et l'autre pour son pouvoir sur les 3 que vous avez en main. Tout le monde fait ça en même temps. Puis on révèle ces 2 cartes en cachant le pouvoir de la carte qui sert à l'initiative. Le joueur qui a la plus grande initiative commence à jouer. Par exemple, le kiwi peut décider de fuir et partir d'un territoire. Il pourra aussi supprimer un possum. L'anglais pourra comme action déboiser. Il coupe un arbre et le récupère. Vous verrez sur les cartes de l'anglais qu'il y a souvent 2 possibilités. Soit il est bûcheron, soit il est ranger. Son rôle évolue dans la partie. Il peut construire des routes pour se déplacer plus vite. Le possum, lui, pourra arriver sur l'île. La Maori peut construire des temples. On peut faire pousser des kaori, déplacer d'autres personnages. Les cartes nous apportent pas mal de pouvoir. Les cartes jouées sont ensuite défaussées. La troisième reste en main. Alors à tout moment, vous pouvez décider de revendiquer un héritage en jouant l'une de vos cartes. Pour le déclencher, vous allez sur votre plateau personnel. Les kiwis, par exemple, peuvent provoquer une éruption volcanique. L'anglais pourra se déplacer plus vite car il va avoir un deuxième pion sur le plateau. La Maori pourra s'allier avec l'anglais si elle signe un traité. Alors pour la petite histoire, c'est le traité de Waitangi qui a été signé le 6 février 1840 à Waitangi, dans la baie des îles, entre les représentants de la couronne britannique et des chefs maoris de la partie septentrionale de l'île du Nord. Bon, attention, vous ne pouvez le faire qu'une fois car vous le marquez sur votre plateau personnel. À la fin de la période, il va y avoir des choses qui vont se produire. Déjà, les kiwis qui n'ont plus de kaori à côté d'eux sont retirés car ils sont plus protégés avec les arbres. On avance le compteur de période, le compteur de conscience de l'anglais qui peut aussi être influé à partir des pouvoirs des cartes selon là où il se trouve. Il peut être un bûcheron ou ranger, ça je vous l'ai dit. On retirera aussi les épidémies et les inondations et on enchaîne comme ça une nouvelle période. À la fin de la cinquième, le joueur avec le plus de points l'emporte. Kaori est un jeu asymétrique. Un route un petit peu plus facile quand même, un jeu qui s'adresse à la famille. Et bien sûr, tout le monde voudra jouer les 4 personnages. Il y en a des plus faciles à jouer que d'autres. La Maori est certainement la plus compliquée, mais elle n'intervient qu'à 4 joueurs. Les enfants préféreront commencer avec les kiwis, le but hein, pour eux, rester sur le plateau. Une chose est sûre, Kaori, c'est un jeu avec de l'interaction. À noter les magnifiques illustrations signées Jérémy Fleury. Dernière chose, vous ne le savez peut-être pas, mais les habitants de la Nouvelle-Zélande n'arrivent toujours pas à se débarrasser des possums.
Événement ludique.
First Empires, Potion Sauvage, Peter Pan, entre autres, et désormais Kaori, 28 jeux de société illustrés, 102 livres et un dessin animé. Mon invité, c'est Jérémy Fleury. Salut Jérémy.
Salut Matt. Bonjour à tous et à toutes qui nous écoutent.
Eh bah oui, alors tu es illustrateur de jeux, mais est-ce que tu es joueur aussi?
Oui, bien sûr, je suis également joueur. Je dirais pas que je suis un grand joueur de jeux de société, mais j'ai quand même une belle ludothèque.
D'accord. C'est quoi ton jeu préféré?
Ah, bah, c'est une bonne question. Bah, je dirais qu'en ce moment, bah, vu que je joue à Kaori, bah, en ce moment, je suis assez orienté Kaori. Mais sinon, j'aime bien des jeux comme Azul. Il y avait Small World, qui est un jeu qui m'a beaucoup marqué à l'époque. Et puis, je dirais que c'est déjà pas mal. Oui, il y a Seven Wonders aussi, que j'aime bien retaper dans ce classique aussi.
Alors, une journée de Jérémy, ça se résume comment? Est-ce que tu bosses sur plusieurs projets en même temps ou tu te consacres à un projet avant d'en commencer un autre?
Alors, souvent, moi, je bosse sur plusieurs projets en même temps. Par contre, dans une même journée, souvent, ce que je fais, c'est que je me focus sur un projet à la fois.
Ouais.
Par exemple, je peux me dire, aujourd'hui, je vais illustrer des illustrations pour un album.
D'accord.
Demain, je ferai celle d'un jeu de société. Ça, c'est vraiment quand j'ai plusieurs productions à la fois. Mais en général, j'essaie de pas avoir trop non plus en même temps, sinon c'est compliqué parce que suivant les projets sur lesquels je travaille, il n'y a pas forcément le même style.
Ouais.
Par exemple, sur un jeu de société, on en parlera tout à l'heure, mais comme Kaori, c'est une cible plutôt familiale, mais plutôt adulte aussi. Par contre, quand je bosse sur mes albums jeunesse comme Azuro, c'est plutôt enfant.
D'accord.
Et du coup, la gymnastique qu'il faut avoir pour adapter son style d'un projet à l'autre, parfois c'est un peu compliqué, quoi. Donc, c'est bien de pas s'éparpiller trop non plus dans le process.
Alors aujourd'hui, t'as prévu de bosser sur quoi?
Bah aujourd'hui, en ce moment, je suis en plein bouclage du 17e tome de ma série jeunesse qui s'appelle Azuro.
D'accord, ok. On va en parler tout à l'heure d'Azuro. Alors, est-ce que tu travailles comment? T'es plutôt papier-crayon ou tablette?
Alors, pour être honnête, je travaille vraiment avec tous les outils possibles. Par contre, c'est sûr que pour tout ce qui est colorisation, en général, je travaille sur ordinateur. Je fais beaucoup de dessins sur tablette graphique.
D'accord.
Très souvent, je reste attaché quand même à une base crayonnée, au crayon, parce que mine de rien, à force de travailler sur les écrans, malgré tout, ça fait un peu mal aux yeux, chez vous. Donc c'est bien de temps en temps d'avoir aussi cette attache du dessin traditionnel. Et du coup, après, une fois que j'ai fait le crayonné, je peux passer à la couleur sur ordinateur en utilisant une tablette graphique avec un stylet. Ça marche bien.
Quel jeu t'as préféré illustrer? Pourquoi?
Oula, c'est une question compliquée là, parce que si je dis une préférence, je vais mettre des auteurs, des éditeurs ados là. Non, en fait, en vrai, je pense que j'ai pas vraiment de jeu préféré que j'ai illustré, mais par contre, j'ai des jeux où j'en suis plus ou moins fier.
Ouais.
Je dirais que le jeu aujourd'hui dont je suis peut-être un des plus fiers, je dirais que c'est Yamatai, parce
D'accord,
que c'est un
ouais.
jeu que j'ai illustré il y a quand même un certain temps. Et quand je retrouve les illustrations aujourd'hui, je trouve qu'elles sont pas trop mal vieillies, elles fonctionnent bien. Du coup, c'est un des jeux qui j'en suis le plus fier. Mais c'est vrai que dans mes productions récentes, il y a aussi Peter Pan, qui est un jeu qui m'a énormément plu en termes de graphisme, parce que c'était très varié. Enfin, il y a beaucoup de matériel. Je me suis vraiment éclaté sur l'univers de Peter Pan. Et voilà. Donc après, je me suis aussi éclaté sur Kaori. Mais je dirais que quand même, des projets que j'ai cités avant, c'est des jeux où il y a beaucoup de matériel.
Ouais.
Et forcément, quand on travaille sur un jeu avec beaucoup de matériel, et ben on s'éclate vraiment, parce que nos illustrations prennent vie sur plusieurs petites choses différentes, des cartes, des figurines, plein de choses. Donc c'est cool.
Est-ce qu'il y a des jeux qui sont plus faciles à illustrer que d'autres?
Alors, chaque jeu a des challenges, mais je dirais qu'un jeu plus facile à illustrer serait un jeu de cartes.
Ouais.
Parce que voilà, c'est un jeu, c'est tout le même support. Tandis qu'un jeu avec un plateau, déjà le plateau, c'est déjà un gros challenge.
Ouais.
Et suivant la taille du plateau, je te raconte pas le truc.
Comment ça se passe avec la relation avec l'éditeur? Est-ce qu'on te demande de revoir ta copie parfois?
Bah bien sûr, ce serait vraiment te mentir que de te dire que justement un projet se passe de A à Z comme il faut. Ouais. Enfin, c'est normal, hein, parce qu'en fait, faut savoir qu'un jeu de société, il y a toujours des petits ajustements. Bah, en fait, même si, par exemple, l'éditeur me contacte, il a son prototype, il est fini, etc., il y a toujours des micro-ajustements, ça peut être dans le gameplay, et puis il y a des tests qui sont faits avec les illustrations. Il suffit qu'il y ait une mauvaise lisibilité d'un élément, etc. Bon, on me demande, ah bah tiens, ça marche pas trop, il faudrait peut-être rehausser les couleurs ou retirer quelques détails pour gagner en lisibilité. Du coup, là, je m'exécute. Ça fait partie du travail d'illustrateur de jeux société que de s'adapter justement au gameplay, aux règles du jeu. Et puis, et voilà, c'est important. Bah, du coup, faut se rendre compte que même avec 10 ans d'expérience, il y a toujours des retouches. Hein. C'est normal. Ouais. C'est partie du jeu, en fait.
Est-ce qu'on te donne des délais aussi pour les illustrations? Combien de temps ça te prend à illustrer un jeu de société, un jeu de plateau, par exemple, comme Kaori?
Bah, Kaori, je pense qu'on était sur 2-3 mois, mais... faut dire qu'on c'était même plus long parce qu'en fait les jeux de société c'est un étalement plus long parce que forcément il y a toujours ces plusieurs stades de développement et des fois ça prend du retard et entre le moment où on me contacte on me dit ah ben on va illustrer un jeu ensemble on va faire ce jeu là
ouais.
Et que je signe le devis le contrat il peut se passer encore plusieurs semaines plusieurs mois avant que je commence à prendre mes crayons et à faire des illustrations. Donc c'est un peu compliqué de répondre, j'avoue, à cette question, mais ça peut aller de, je dirais, de un mois, deux mois, trois mois, voire plus.
Ouais. Est-ce que c'est l'éditeur ou des fois il y a l'auteur qui te contacte et dit j'ai envie de bosser avec toi sur mon jeu?
Alors en fait, dans le milieu du jeu de société, ça m'est jamais arrivé encore aujourd'hui d'avoir un auteur et de venir avec un projet clé en main auprès d'un éditeur. Je suis pas certain que ça se fasse. En tout cas, c'est pas la norme.
Ouais.
En général, l'éditeur, c'est lui qui aime bien un petit peu chercher ce qu'il veut avoir comme univers graphique pour son jeu de société. Du coup, il a des vues sur des illustrateurs, des illustratrices. Et puis voilà. Et puis après, en fait, en général, mon contact avec l'auteur peut se faire un peu en amont. Bah, en tout cas, pour Peter Pan, c'est vrai que Marc Paquin. Il voulait vraiment que ce soit moi aussi sur le jeu.
Ouais.
C'était vraiment un truc, c'est que l'auteur a aussi pas mal joué sur le fait que j'ai illustré son jeu.
D'accord.
En fait, on avait aussi illustré ensemble. Enfin, j'avais bossé sur Yamata et il était co-auteur avec Bruno Catala et c'était une super expérience. Donc forcément, il voulait réitérer l'expérience. Donc c'est super cool. Mais en général, mon contact avec l'auteur se fait souvent pendant ou un petit peu avant, ouais. Mais souvent, le choix illustrateur est arrêté. Voilà.
D'accord. Est-ce qu'il y a certains éditeurs avec qui tu aimes travailler plus que d'autres?
Joker.
Joker.
Je vais quand même te répondre en vaguement. J'aime bien les personnes qui, quand ils me contactent, ils ont vraiment un coup de cœur pour mon univers.
Ouais.
Qui, du coup, ils ne sont pas là à vouloir que je fasse quelque chose qui ne me correspond pas. Donc déjà, quand on entre dans un cas de figure où c'est plutôt fluide, où ils aiment vraiment ce que je fais, donc ça, c'est génial. Donc avec un vrai respect du travail de création, d'illustration, etc. Donc rien que ça, moi, je demande pas grand-chose, en fait. Juste, un travail respectueux entre diverses personnes qui aiment le monde ludique et puis et que ça se passe bien, voilà.
À chaque fois que tu vas illustrer un jeu, c'est un nouveau défi pour toi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir du mal à démarrer, de ne pas savoir dans quelle direction partir?
Chaque jeu, c'est un vrai défi. Voilà, chaque jeu, en plus, c'est un univers différent, des nouveaux supports. Il faut toujours réfléchir, parce que, par exemple, quand tu fais des illustrations vues de dessus, ça demande aussi une certaine gymnastique en termes de création, parce que c'est pas toujours évident. Je pense que tous les jeux ont été un défi, même Potage Sauvage, qui pourrait paraître un jeu plus simple, un jeu de cartes, tout à l'heure, j'en parlais. Trouver l'univers graphique de Potage Sauvage, d'ailleurs, j'ai un petit peu modifié, un peu stylisé davantage mon style pour ce jeu-là.
D'accord.
Ça a été aussi un travail de réflexion. C'est assez, franchement, c'est très rare qu'un jeu débutant blanc, je me dise, ça va être facile, je fais mon style habituel et bingo, quoi.
Ouais. Non,
en fait, à chaque fois, il y a un travail de réflexion. Il n'y a aucun jeu où ça a été facile. Franchement, c'est tous les jeux, c'est un défi.
Est-ce qu'il y a des jeux que tu as refusé d'illustrer et après tu as regretté?
Je ne suis pas dans le regret.
Non.
J'assume mes choix en général. Parce que quand je refuse un projet, quand le projet se fait pas, c'est que souvent il n'y a pas eu un super feeling dès le départ.
D'accord. Ouais.
Après, il peut se passer la chose suivante, c'est que je peux refuser un jeu et que parce que j'ai pas le temps,
ouais.
J'ai un planning chargé. Mais en général, ça m'est rarement arrivé. Mais quand du coup, j'ai pas vraiment de regrets. Je peux pas entrer dans le détail, mais c'est vrai que j'ai déjà eu des jeux qu'on m'avait proposés, puis que je suis pas allé dedans et puis finalement ils ont eu l'as d'or, tu vois.
Ouais.
Mais
ah bah oui.
moi, ça me provoque. Enfin, j'ai aucun regret en fait.
D'accord.
Pour moi, c'est pas ce que je recherche. Forcément. Si jamais un jour j'ai un de mes jeux qui a l'as d'or, je serai vraiment ravi et heureux. Mais au moins, ce sera fait dans avec une équipe qui, comment dire, ce sera vraiment bien passé dès le départ.
Ouais.
Remporter l'as d'or sur un jeu où ça s'est pas hyper bien passé, ou voilà, mais c'est rare. Hein. Franchement, ouais. J'ai rarement vu des clients où ça s'est mal passé. En général, ça se passe vraiment très très bien. Donc voilà, je suis pas dans le regret, voilà.
Et est-ce qu'il y a un jeu que tu aurais aimé illustrer? Tu te dis, ah, celui-là, j'avais une petite idée quand même, ça aurait été pas mal.
Ah, mais tu me prends un peu au dépourvu, là, j'ai pas d'idée en tête. Mais ouais, ça m'arrive. Typiquement, alors, je vais te dire, dans les belles années, Libellude, je t'aurais dit Dixit.
Eh ben oui.
Ouais. Franchement, c'est le genre de jeu qui m'aurait vraiment beaucoup, beaucoup plu à illustrer, typiquement. Après forcément il y a tous les jeux qui ont des beaux univers graphiques, ça aurait pu être aussi dans la même veine, c'était un Mysterium forcément,
ouais.
Mysterium, un très 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 beau jeu, etc. Mais il a été superbement exécuté par un autre collègue illustrateur, donc pas de regret non plus, parce que le jeu quand j'y joue, j'y prends vraiment mon pied, donc
ouais.
Pas de souci là-dessus. Mais je pense que voilà, en fait entre collègues illustrateurs on a un vrai respect du travail de l'autre. Et on n'est pas là, voilà, à se choper les projets et tout. Mais c'est vrai que des fois, il y a des moments où on se dit, ah, celui-là, j'aurais aimé ouais. Faire, pour être plus, voilà.
Dans Kaori, il y a quatre factions. Laquelle t'as préféré illustrer?
Alors, elles sont toutes sympas à illustrer.
Ouais.
Mais je pense que celle qui m'a demandé le plus de travail et de recherche et qui, du coup, m'a le plus intéressé, c'est la Maori, forcément.
Ouais.
Parce que c'est un peuple qui est hyper intéressant, avec une richesse culturelle vraiment, vraiment passionnante, vraiment. Parce que j'ai commencé, quand j'ai voulu représenter ce personnage, je suis vraiment allé chercher dans des sites internet de Nouvelle-Zélande, etc. J'ai voulu chercher vraiment la source pour pas faire n'importe quoi.
Ouais.
Donc, par exemple, sur la couverture, elle a vraiment tous les attributs de la chef Maori.
D'accord.
Et c'est le moindre détail, que ce soit les plumes qui ornent sa tête, qui est en fait des plumes d'un oiseau qui était endémique à la Nouvelle-Zélande et qui en fait a disparu et qui déjà à l'époque des Maoris était extrêmement rare. Et en fait, c'était un signe de grand respect, de grande richesse, mais surtout ça apportait ce qu'on appelle leur énergie, le mana. Et c'était transmis de génération en génération, de chef en chef Maori. Et c'était vraiment... Parce que souvent, on m'a posé la question, on me disait, mais ça fait une indienne d'Amérique, pourquoi elle a des plumes sur la tête? Je dis, mais détrompe-toi, c'est que vraiment, c'est un attribut typique du chef Maori.
Ouais.
Et ça, il faut savoir, parce qu'il faut faire des recherches et tout.
Alors, on va parler d'Azuro aussi, puisque tu es l'illustrateur d'Azuro. Comment est arrivée cette aventure d'Azuro?
L'aventure d'Azuro, ça, c'était il y a plus de 10 ans, à peu près... c'est arrivé de ma rencontre avec les auteurs Laurent et Olivier Soudier.
Ouais.
Et en fait c'était mes débuts, voilà, j'étais sorti de mes études d'illustration, j'avais un diplôme en poche, j'ai eu mes premiers projets, mais en fait voilà, eux ils avaient ce projet là depuis plusieurs années. Ils ont dit bah tiens, ça t'intéresserait pas d'illustrer? Et du coup j'ai dit bah ouais, trop bien, parce que c'est l'histoire d'un dragon bleu qui crache de l'eau, la thématique de la différence, l'histoire super mignonne. Et puis de fil en aiguille on a été édité chez Ozu.
Ouais.
Et voilà, aujourd'hui, je suis en train d'illustrer le 17e tome. Et du coup, c'est vraiment une histoire, c'est une amitié avec mes auteurs. Et puis surtout, il y a ce truc hyper important, c'est qu'Azuro, il est un petit peu il représente une des filles des auteurs qui s'appelle Maëlle.
D'accord.
Et qui est atteinte du syndrome de Williams.
Ouais.
Qui est en fait une maladie génétique orpheline. Et vraiment, la thématique de la différence est incarnée par cette petite fille qui est devenue grande depuis. Le temps passe. Et du coup voilà, donc tous les tomes d'Azuro sont dédiés aux enfants atteints du syndrome de Williams, on est même parrain de l'association et c'est chouette, c'est une belle aventure.
Et tu dois être fier maintenant que TF1, que ton Azuro arrive sur TF1 en dessin animé.
Bah, c'est une vraie fierté, hein. Je te cache pas que.
Comment ça s'est fait, ça?
Le Jérémy du passé est super, super fier. Bah, et en fait, comment ça s'est fait? Il y a eu un vrai coup de cœur des producteurs. On était genre juste au tome 3 ou 4.
Ouais.
C'était déjà il y a 6-7 ans, les producteurs, ils ont un vrai coup de cœur. On a signé avec eux pour une adaptation audiovisuelle. Et de fil en aiguille, ben, on est passé dans plusieurs directions. Et puis. Maintenant, c'est une brigade de dragons avec Azuro, Oria, Vermillon qui vont aider les créateurs fantastiques. C'est une super, c'est super chatoyant, un univers fantastique pour les enfants. Il n'y avait pas trop ça, tu vois, à la télé.
Ouais.
On voulait vraiment faire quelque chose de beau graphiquement, qui soit pas en 3D, un peu froide comme on peut le voir parfois, même souvent. Et voilà, on est très très fiers du résultat. Et voilà, c'est le samedi matin à partir de 7h25. Il y a vraiment deux épisodes par semaine.
Ouais.
Voilà.
Ça doit te prendre énormément de temps, ça.
Ah oui, c'est beaucoup de temps. Mais là, maintenant, je suis dans la phase plutôt tranquille. C'est qu'il y a les équipes qui travaillent.
Oui.
Leur faites beaucoup de courage.
C'est pas toi qui fais les animations et tout ça. Hein. On est bien d'accord.
Voilà, les animations. Non, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé tous les personnages qui ne sont pas dans les livres, mais qui ont été créés spécifiquement pour le dessin animé. Et j'ai créé aussi la caserne. Enfin, j'ai pas mal de choses qui ont été faites. Mais cette phase-là, c'était plutôt l'année dernière où j'ai bossé dessus.
Ouais. Alors, il nous
maintenant,
reste.
Je fais de la.
Attends, vas-y, Jérémy.
Maintenant, ce que je fais, c'est que je supervise. C'est-à-dire qu'ils m'envoient les épisodes au fur et à mesure, ou les storyboards et tout. Et puis moi, je leur fais des retours. Enfin, c'est mon rôle aujourd'hui, c'est ça.
Ouais,
et par contre, tout ce qui est création, j'ai tout fait. Voilà.
Alors, il nous reste 2 minutes, Jérémy. Est-ce que l'intelligence artificielle te fait peur?
Alors l'intelligence artificielle, c'est un vrai sujet. Il faut savoir que oui, on peut avoir peur. Je dis pas que j'ai peur du progrès, pas du tout, parce qu'en fait l'intelligence artificielle dans divers domaines va apporter vraiment quelque chose de vraiment formidable, notamment dans la médecine, etc.
Ouais.
Par contre, dans le milieu de la création et de l'image, il y a une vraie problématique, surtout sur tout ce qui concerne la falsification d'images, les fake news.
Ouais.
Beaucoup de manipulation du visuel, ce qui est très grave, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'extasient devant des images, on leur fait croire que c'est la réalité, alors que c'est tout du faux.
Mm.
Donc ça, c'est le truc le plus important, parce qu'en vrai, c'est vrai, c'est le vrai problème, ça. Et après, il y a un autre problème, effectivement, c'est est-ce qu'il y aura une banalisation de ça dans la création, et que du coup, est-ce que ça va pas remplacer le travail des illustrateurs sur diverses productions? Moi, je te cache pas que je ne cautionne pas du tout ça. Je considère que c'est une technologie qui ne devrait pas être entre les mains des personnes qui auraient besoin justement d'un vrai créatif.
Ouais.
Les vrais professionnels, eux, s'ils veulent s'en servir, qu'ils s'en servent, mais ils vont pas s'en servir pour remplacer leur création.
Mmh.
Ils voudront s'en servir peut-être pour booster un peu leur créativité. Mais il faut pas que ça devienne 80% du process créatif. Moi, je t'avoue, je cautionne pas du tout ça, mais c'est que mon point de vue, mais qui est
c'est bien
partagé.
C'est bien d'avoir ton point de vue. Alors, je pense qu'on fera une émission un jour sur l'intelligence artificielle dans le monde du jeu.
Oui,
mais
là
malheureusement, il me reste 5 secondes, Jérémy, donc avant de me faire couper.
Oui.
Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté et à très bientôt.
Et ben,